RTS. Des personnes formées à la médecine académique qui s'appuient aussi sur des énergies mystérieuses pour soigner les corps et les âmes. La médecine et l'invisible. Une émission de Pauline Vrolix et Samuel Soquet. Et si la médecine et l'invisible pouvaient faire alliance?
Dans ce 13e épisode de notre saison 3, on vous propose une rencontre avec une chercheuse qui sort des sentiers battus. Marie-Julia Guittier est l'autrice principale d'une étude scientifique parue en décembre 2022 dans la revue Explore, qui pose une question osée: peut-on entrer en contact avec la conscience d'un fœtus?
Alors c'est vrai que dans cette émission, on a déjà rencontré des médecins et des chercheurs et chercheuses qui se sont penchés sur la question de la conscience après la vie, mais cette recherche-là, sur la conscience des fœtus, c'est une première mondiale. Et moi je me pose la question, pourquoi cette scientifique s'est-elle lancée dans une telle recherche? C'est quoi son parcours?
Marie-Julia Guittier est titulaire d'un doctorat en sciences de la vie et de la santé. Elle est professeure à la Haute École de Santé et préside aussi la Fondation Genevoise de recherche sur la périnatalité. Le Conseil d'État l'a nommée membre de la commission d'éthique du canton de Genève, dont elle a fait partie pendant 8 ans.
Et avant ses activités de recherche, elle a eu une autre vie, c'est ça?
Oui, avant d'être chercheuse et enseignante, Marie-Julia Guittier a été sage-femme pendant 20 ans, notamment aux hôpitaux universitaires de Genève.
C'est cette expérience de terrain qui l'a ouverte à la question de savoir si les fœtus ont déjà une conscience?
Exactement. La plupart des parents parlent à leur enfant alors qu'il est encore dans le ventre de la maman et à un stade où le cerveau du fœtus n'est pas encore développé. Et Marie-Julia Guittier s'est dit, mais au fond, ses parents, ils s'adressent à qui?
Et comment elle s'y est prise pour mener techniquement cette étude?
Elle a demandé à des médiums d'essayer d'entrer en contact avec des fœtus pour leur poser des questions précises sur leur famille. C'est des réponses qui étaient vérifiées après coup auprès des parents. L'étude a été menée en triple aveugle et elle a donné des éléments factuels et aussi d'autres éléments qui sortent totalement de l'ordinaire. Je lui ai demandé comment elle avait eu cette idée de recherche.
C'était durant l'été 2019, alors pourquoi, je ne peux pas le dire, mais tout à coup, dans mon esprit, et je dirais même que c'est en méditation que ça s'est imposé un jour. Alors pour le coup, oui, un jour précis, je suis sortie de ma méditation et puis j'avais une obsession dans la tête, il faut que je fasse une recherche sur la communication avec l'âme des bébés qui arrive. Alors entre le moment où j'ai pensé ça et puis le moment où la recherche a démarré, il s'est quand même passé du temps parce que j'ai un peu résisté sur le moment. Je me suis moi-même auto-censurée en me disant « mais c'est quoi cette idée-là? C'est fou, non? Puis comment faire ça de toute façon? Et puis oh, non, dans mon travail ça passera jamais, le monde académique va me tourner le dos, pourquoi m'embêter à faire ça ?» C'était presque, j'avais un peu des résistances. Toute seule, en fait, mon mental se mettait bien en route pour me montrer toutes les conséquences terribles qui pouvaient m'arriver en faisant des choses comme ça. Bon, il n'avait pas tout tort, pour être honnête avec le recul, mais il y a quelque chose qui poussait plus fort, en fait, et qui ne me lâchait pas. C'était vraiment ouvrir le questionnement et puis aller chercher des réponses, mais sous forme de ce qu'on appelle les preuves scientifiques. C'était vraiment de réunir la science avec cette spiritualité, de faire tomber cette barrière, parce que les deux se regardent quand même un peu comme chien et chat, hein, encore maintenant.
En même temps, vous êtes allé frapper à la porte du Fonds National Suisse, qui avait ouvert une catégorie, recherche un peu hors catégorie justement. Donc il y avait une petite ouverture du côté du Fonds National Suisse.
Oui, je vais juste revenir sur le fait que je cherchais les contacts et que j'ai vu le livre « Bienvenue sur Terre » de Sylvie Ouellet. Et je me suis dit « je vais contacter cette femme-là qui est médium et puis écrivain ». On a prévu de se voir parce qu'elle venait régulièrement faire des conférences ici en Suisse et puis en Haute-Savoie, donc c'était assez incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Et on s'est rencontrés en novembre, elle m'avait conviée dans un restaurant assez chic au bord du lac d'Annecy. De mémoire, je crois que c'est le Casino Royal. Puis c'était le midi, c'était noir de monde, il y avait plein de personnes, mais vraiment c'était les déjeuners de travail, quoi, attaché-caisse, costume, cravate. C'était vraiment un lieu de rendez-vous de travail. Et au milieu de notre rencontre, alors qu'on était en train de commencer d'écrire le protocole, tout à coup on a vu arriver un convoi de poussettes avec des mamans. Et le serveur est arrivé là autour de cette grande table près de nous et leur a dit, voilà, on vous a mis autour de cette grande table, on va enlever une chaise sur deux, comme ça vous pourrez intercaler les poussettes et puis ça gênera pas la circulation dans le restaurant parce que vous voyez que c'est un plein rush, il y a beaucoup de monde le midi. Et alors là, on était stupéfaites parce qu'on s'est retrouvés avec tous ces bébés autour de nous, les mamans qui les avaient dans les bras, qui les berçaient, et ces regards qui nous regardaient comme ça, et on s'est dit, ben ça, si c'est pas une synchronicité, un petit clin d'œil de l'univers, c'est quoi, quoi? Parce que c'était presque tellement impromptu dans ce restaurant ce midi-là. Et pourtant, c'est arrivé. Donc ça, c'est une anecdote. Donc, pour répondre à votre question, comment je suis arrivée après au Spark, au Front National? Une fois que j'ai rencontré Sylvie, puis qu'on a commencé d'écrire un bout de protocole, là, j'étais partie, en fait. La question du financement s'est vite imposée, parce que dans les HESSO, en tant que chercheur, on doit financer nos recherches, on doit financer notre salaire de chercheur.
Donc là, dans les hautes écoles de santé?
Oui. C'est quelque chose qui est douloureux pour nous, les chercheurs. C'est un autre sujet, parce que ça nous met beaucoup de stress et de pression pour chercher des financements sur nos projets. Et dans le domaine de la naissance, la parentalité, on n'est pas très aidé. C'est difficile pour nous d'obtenir des fonds parce que, à notre époque, on ne sauve plus tellement des vies dans nos domaines et on est en compétition avec les dernières techniques en neurologie, cardiologie, enfin, on sauve des vies dans d'autres disciplines. Alors que nous, non. Donc, on a beaucoup de mal à financer nos recherches. J'avais déjà eu des expériences plutôt compliquées avec les médecines alternatives, parce que là aussi, ce n'est pas très porteur pour trouver des fonds. Mais pour un sujet sur la conscience et l'idée de communiquer avec la conscience des bébés, je savais pertinemment que ça n'intéresserait personne dans les fonds officiels. C'était perdu d'avance. Sauf que, au moment où j'étais en train d'écrire le protocole, sort pour la première fois un fonds qui s'appelle Spark, Étincelle. Et je vois l'intitulé de ce fonds qui était pour des idées non conventionnelles qui ne trouveraient de financement nulle part. Alors là, j'ai vraiment eu un boom dans la poitrine en me disant « Waouh, c'est fou, c'est génial, le Fonds National, une ouverture comme ça, des idées non conventionnelles. » Spark, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un signe de l'univers qui me disait « Allez, vas-y, on t'aide, quoi. » Donc j'ai été vraiment inspirée pour écrire très vite ce protocole, le soumettre, et j'avais beaucoup d'espoir. Sauf que ce protocole a été évalué par deux personnes, de façon anonyme, comme se font les reviews. Et pour être financé, il fallait que les deux aient qualifié ce projet d'excellent. Et les réponses de ces deux reviewers ont été un petit peu à l'image du monde où il y a des fois cette séparation entre les gens qui croient à tout ça, qui le perçoivent, et ceux qui n'y croient pas et qui ne le perçoivent pas. Donc, un des reviewers a qualifié ce projet d'excellent. Il a dit... Il a écrit que seuls des projets comme celui-là pourraient faire changer de paradigme les pensées, l'approche de la naissance, l'arrivée des humains sur la Terre. Donc il était très favorable au financement de cette étude exploratoire. Nous n'oublions pas, hein, c'est qu'une exploration. Mais l'autre a fait l'évaluation complètement à charge et a conclu, cette phrase, elle m'a vraiment marquée, je dirais même blessée. Parce qu'il a écrit « Dès lors que vous avez utilisé le mot « médium » dans votre protocole, vous avez perdu toute crédibilité. » Et waouh, je me suis dit « Comment on peut écrire ça ? Comment un mot peut faire perdre une crédibilité ?» Pour écrire ce protocole, après avoir discuté avec Sylvie Ouellet les premières idées, bien sûr qu'après, ce n'est pas avec elle que j'ai continué, parce qu'elle n'a pas de bagage scientifique, donc moi j'ai plongé dans la lecture des recherches faites avec des médiums, parce que ce n'était pas du tout mon champ d'expertise. Donc j'avais lu beaucoup de recherches avec Dean Radin, Julie Béchel notamment, et d'autres. Et j'avais argumenté mon protocole sur la base des recommandations faites par Julie Béchel et son équipe sur comment faire de la recherche avec la médium, la recherche scientifique.
Vous citez une chercheuse américaine qui fait des recherches depuis déjà assez longtemps, plus quasiment 15 ou 20 ans, qui a mis en place des protocoles pour tester des médiums. C'est des protocoles en quintuple aveugle qui répondent aux standards de la science occidentale basés sur les preuves. Et elle conclut, alors non pas l'existence d'une vie après la mort, mais par contre elle conclut que les médiums obtiennent des informations par des voies anormales que la science occidentale n'arrive pas à expliquer. Et vous, vous basez sur ces recherches de l'après-vie pour vous en inspirer, pour faire des recherches sur ce qui se passe avant la naissance, mais du point de vue de la conscience aussi.
Oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, j'ai pu voir un miroir possible entre la communication avec la conscience des défunts qui pourrait persister. Et je me suis dit, si après la mort, on peut continuer à discuter avec la personne qui est partie, est-ce que cette conscience-là n'est pas préexistante à ce petit corps qui arrive ? Ce serait fou de se dire ça, peut-être, mais pourquoi pas ? Alors c'est vrai que c'est ouvrir une porte qui n'a jamais été ouverte, et toutes les personnes vers qui je suis allée, qui ont accepté de me soutenir par la suite, ont eu un premier... des personnes qui travaillent sur ces sujets-là depuis longtemps, hein. Je pense à l'Institut Ion, avec qui j'ai collaboré, l'Institute of Noetic Sciences en Californie. Et puis d'autres, la première réaction, ça a été « Waouh, on n'y avait jamais pensé ». C'est une hypothèse qui peut sembler un peu folle, c'est vrai, de se dire si, puisque beaucoup d'intermédiaires arrivent à communiquer avec les défunts et même des gens spontanément sans le chercher, et j'en ai fait aussi moi l'expérience... Pourquoi ce ne serait pas possible de l'autre côté, avant que les êtres humains soient incarnés, enfin durant leur processus d'incarnation. Avec la recherche scientifique, ce que j'aime en tous les cas, moi, en tant que chercheuse, c'est de me donner l'autorisation de me poser toutes les questions qui me viennent, sans tabou, sans limite, et celle-ci semblait audacieuse, elle est audacieuse, c'est une réalité. Mais pourquoi se limiter ? Après, il faut rester rigoureux, scientifique, ça c'était très important pour moi. Donc les recherches de Julie Béchel ont été source d'inspiration.
Donc cette chercheuse américaine qui fait des recherches sur les contacts de médiums avec des supposés défunts.
Oui, c'est ça. Donc elle a pu mettre en évidence des choses importantes, on peut les dire comme ça, il y a en deux gros piliers. Le premier, c'est de faire en sorte que les médiums travaillent dans un environnement favorable pour faire leur communication. Donc il ne s'agit pas de les stresser, de les mettre dans un laboratoire, de les observer sous tous les sens. Et ça, j'en ai tenu compte en leur proposant de faire ces tentatives de communication qui étaient nouvelles pour la quasi-totalité, chez eux, quand c'était bon pour eux, en fait. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième, c'est de mettre en place, vous avez dit triple aveugle, quintuple aveugle, du blending. Souvent, on le dit souvent en anglais, ce mot, ça veut bien dire aveugle. Ça consiste à cacher, à dissimuler tout ce qui pourrait donner des indications au médium avec tous les moyens qu'on peut imaginer pour le faire. C'est important parce qu'on ne connaît pas bien encore comment tout ça fonctionne. Et puis, il y a un petit peu comme la conscience, une grande palette de façons de faire ces communications avec l'invisible. Il peut y avoir de la télépathie, tout simplement. Il peut y avoir le phénomène de voyance. La médiumnité, qu'est-ce que c'est ? Pas encore par rapport à ça.
Ça veut dire que là, vous évoquez des situations où, parce que le protocole ne serait pas rigoureux, le médium pourrait aller, entre guillemets, piocher des informations dans l'esprit du chercheur qui connaîtrait des choses sur le couple, par exemple, qui attend un enfant. Et là, ce serait pas une communication avec une conscience en devenir, mais ce serait de la télépathie, et donc ça fausserait le protocole. Donc vous, le protocole en triple aveugle consiste à faire en sorte qu'il y ait une étanchéité entre vous, chercheuse, les participants qui attendent l'enfant, et puis le médium. Donc l'information ne circule pas entre les trois. Ça veut dire qu'après, vous recoupez les informations que différents médiums donnaient sur une supposée conscience fœtale.
Oui, pour chaque test, le moins c'était 3 médiums, le plus c'était 8 médiums, qui tous tentaient la communication en même temps, dans le même mois. Ce qu'on a mis en place pour favoriser au maximum la connexion avec la conscience fœtale et que les informations ne soient pas prises dans les pensées des parents qui seraient en face, c'est de faire en sorte que les futurs parents ne rencontrent jamais les médiums. C'est de faire en sorte que les médiums n'aient aucune information sur les futurs parents. Et c'était de faire en sorte aussi que les médiums ne se connaissent pas entre eux. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'écriture de l'article, et même avec mes deux collaborateurs avec qui on a co-analysé et écrit, Renaud Evrard et Magali Exterman, ils ont découvert le nom des médiums quand on a écrit l'article. Jusqu'au bout, ils ne les connaissaient pas du tout. Ce n'est pas pour autant qu'on peut être sûr que les médiums étaient en connexion avec la conscience. Ça reste, il faut rester humble. Hein. On ne peut pas, à notre stade, en tous les cas, avec cette première recherche, affirmer que les médiums étaient toujours en contact avec la conscience des fœtus.
Les résultats que vous avez obtenus grâce à cette étude, c'est que quasiment 70% des réponses étaient avérées, donc ont pu être vérifiées par la suite, ce qui est un pourcentage qui défie les lois du hasard. Du coup, comment ils ont trouvé ces 70% de réponses justes ?
eux sont persuadés, je leur ai demandé après la recherche, hein, s'ils étaient persuadés d'avoir été en communication avec la conscience des bébés. Il n'y en a pas un qui m'a dit non, je pense que j'ai pris les informations malgré moi, en télépathie avec les parents, ou à travers moi, parce que moi j'étais en contact avec eux, et puis ils savaient que je savais des choses, j'avais des informations, et est-ce qu'ils auraient pu se connecter à ma personne pour les prendre dedans? J'espère pas, mais je peux pas l'exclure, parce que... Peut-être qu'en pensant aux parents de cette conscience-là, ben, ils arrivaient à s'y connecter quand même, j'en sais rien. Même s'ils ne les connaissent pas, je ne peux pas le prouver, mais je ne peux pas l'exclure non plus.
Mais du coup, les conclusions de votre recherche, c'est quoi?
Ben, les conclusions, c'est que les portes sont ouvertes, ça nous ouvre quand même des voies d'investigation, de réflexion sur à la fois une meilleure connaissance de qui nous sommes. Moi, j'avais été très inspirée par le documentaire fait par Bernard Martineau, c'était en 1984, hein, mais je l'ai vu durant mes études de sage-femme, on nous l'a projeté, et le titre c'était « Le bébé est une personne ». Et c'était déjà un séisme presque de se dire à cette époque-là que le bébé est une personne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas prêt pour faire un pas plus loin et se dire « Ok, le bébé est une personne, mais une personne c'est quoi ?» Et je pense que cette recherche, elle ouvre des voies d'expérience, de réflexion aussi sur qu'est-ce que nous sommes, l'être humain, c'est quoi un être humain, d'où nous venons, pourquoi nous venons. Alors, dans cette recherche, nous avions des questions vérifiables, entre guillemets, parce que c'était le but de pouvoir faire de cette façon-là, vérifier ce qui était apporté par les médiums et ce qui était apporté par les parents.
Donc là, c'était des informations factuelles sur la famille, par exemple.
Oui, c'était par exemple, on demandait à cette conscience fœtale, est-ce que tu sais si on t'a déjà choisi un prénom? Est-ce que tu peux nous le donner? Est-ce que tu peux nous parler de tes parents? Est-ce que tu peux nous les décrire physiquement? À quel terme de gestation est-ce que tu es? C'était des choses comme ça qu'on pouvait après retrouver dans les interviews avec les parents pour se dire, ah oui, c'est juste, ça match ou ça matche pas.
Et donc là, on est d'accord que le médium n'a jamais rencontré, ni vu de photos, ni été en contact avec les parents?
Non. Absolument pas. On leur donnait juste, bon voilà, il y a le test numéro 1 qui est arrivé, vas-y. On leur a donné un guide d'entretien où ils posaient donc les questions que je viens de citer. Dans cette recherche, il y a eu toute une série de questions invérifiables. Ça, on a décidé de les poser en brainstorming avec l'équipe américaine de IONS, en fait, de profiter de cette exploration inédite pour aller plus loin que les questions vérifiables.
IONS, c'est l'Institut des sciences noétiques.
Oui, l'Institut des sciences noétiques. Parce qu'à un moment donné, je cherchais des collaborateurs pour travailler avec moi au niveau scientifique. Et j'ai eu du mal à les trouver au niveau local. J'ai proposé à plusieurs collègues dans la recherche, sage-femme ou dans d'autres professions, psychologie, neurosciences. Et puis non, les portes se sont fermées, donc j'ai dû élargir. Et puis je suis là aussi, il y a eu des synchronicités pour être connectée avec l'Institut des sciences noétiques de Californie. Et en discutant avec Hélène Verbe, qui est la directrice de ce centre de recherche, elle m'a encouragée à poser aussi des questions invérifiables, mais qui sont aussi de la recherche quelque part, parce que on peut aussi documenter des choses pour essayer d'en comprendre le sens, hein, sans qu'il y ait une sorte de preuve que c'est vrai quelque part. Et donc on a posé des questions du style, est-ce que c'est toi qui as choisi tes parents? Est-ce que c'est toi qui as choisi de venir? Et comment tu fais pour entrer dans ce corps? Alors ça, c'est pas dans l'article. Dans ce premier article, ça pourrait faire l'objet d'un second. Pour l'instant, j'écris un livre en co-auteur avec Sylvie Vouellette sur pour raconter la recherche pour le grand public. Et dans ce livre, on va vraiment détailler toutes les réponses qui ont été données sur ces questions-là, non vérifiables. Donc c'est aussi ça qui me donne cette conviction qu'il y a quelque chose qui préexiste et qui continue tout le temps.
Simplement sur cette question du circuit de la conscience, ça viendrait d'où avant d'arriver dans une incarnation d'un corps?
Je préférerais m'en référer à des citations, si vous voulez que je prenne le temps de chercher une ou deux citations qui parlent de ça. « Alors, j'en ai plusieurs, j'hésite un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais lire. Il y a des réponses là-dessus, mais elles sont un peu toutes azimuts. Donc, c'est peut-être... Il y a du vrai dans tout, peut-être. Je vous en lis. Une conscience nous a dit « Tout fusionne au moment de l'accouchement. Dès que les deux premières cellules fusionnent dans le corps physique, l'énergie est déjà reliée, mais tout fusionne au moment de l'accouchement. » Un autre nous a dit « Pour moi, ma conscience s'est reliée au corps physique il y a 8 semaines environ. » 8 semaines, là, cette conscience, elle était à 38 semaines, donc c'était 30 semaines de la gestation. Je continue la citation. « Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ma fréquence s'est modifiée et je me suis reliée à mon corps physique et non plus à mon monde précédent. » Je dis encore une citation par rapport à cette question de la reliance sur le corps physique parce qu'elle m'a fait rire, celle-ci. Une conscience a répondu « Je ne comprends pas ta question. Pour moi, l'âme est soit sans enveloppe, soit avec une enveloppe. » Mais cela ne fait pas une grande différence, c'est comme rouler en décapotable. J'aime bien cette image, c'est comme rouler en décapotable. La sensation est différente, mais le reste est pareil. Sur la question de, qu'est-ce que tu expérimentes avant que tu sois connecté avec cette mère biologique, on a eu par exemple, j'étais dans un monde avec plein d'autres personnes, âmes, comme moi, et on partageait de super moments. Je n'ai pas de mots pour expliquer cela. Nous avons là-haut des familles d'âmes avec qui nous aimons être et partager. Il n'y a aucun interdit et nous avons accès à absolument tout.
Là, on arrive dans des champs qu'on pourrait qualifier de vraiment perchés. Est-ce que vous, la chercheuse Marie-Julia Guittier, qui êtes habituée à faire des protocoles, à chercher des données, comment la chercheuse intègre ces informations, reçoit ces informations ?
J'ai déjà eu l'expérience de recherche où je suis en face de personnes qui me racontent des expériences et je prends ce qu'ils me disent et j'essaie d'en faire du sens. Qu'est-ce que cette personne me dit quand elle me dit ça ? Et après, je cherche dans la littérature si d'autres personnes ont vécu les mêmes choses et disent la même chose. Donc d'un point de vue scientifique, pour ces questions non vérifiables, je fais de la même façon. Je le prends comme si c'était une personne en face de moi qui m'avait dit quelque chose comme ça. Et puis je me demande, mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit ça? Et puis après, ben, je vais lire ce qui est dit sur le sujet par d'autres. J'essaye de comprendre si, qui a dit ça à part cela. Et je m'inspire beaucoup actuellement pour cette partie, pour l'écriture du livre, avec le livre Cosmic Cradle, qui a été écrit par un couple de chercheurs, le couple Carman, où ils ont tellement de témoignages aussi dans ce sens et ils en font aussi une analyse scientifique qui est intéressante. Donc la science, ça peut aussi être vu comme ça. Mais pour l'article paru dans Explore, on n'a pas du tout été dans ce domaine-là parce que l'objectif premier de la recherche, c'était quand même de vérifier des éléments. On avait un questionnaire qui était très, très fermé, hein, le prénom, le sexe, le terme, les choses comme ça. Et quand on regarde le taux de réponse juste à ces questions-là, il est bas, il est vraiment en dessous de ce que le hasard pourrait apporter. Donc ça, c'était plutôt décevant et pas en faveur d'une communication intéressante, en tous les cas, sur ce point de vue-là. Mais la surprise a été que ces consciences contactées racontaient plein de choses qu'on ne leur demandait pas. Plein d'anecdotes pour nous dire comment la poussette avait été choisie et tout ça, des choses inattendues... Vraiment des choses relationnelles, transgénérationnelles dans les familles où ils arrivaient, que les parents ne m'avaient pas confié lors du premier entretien et que j'allais après, dans un second entretien, avec prudence, vérifier quand c'était possible. Et puis là, on s'est aperçu que tout ce qui était amené comme ça, spontanément, qui n'était pas dans les questions, était des choses vérifiables, enfin, beaucoup étaient vérifiables, vérifiées et justes. Et c'est pour ça que quand on prend toutes les réponses données, à la fois le questionnaire initial et tout ce qui a été apporté spontanément, bon, on arrive à 70% de choses qui ont été validées. Voilà, c'était juste pour revenir sur le fait qu'on n'a pas la preuve, mais on a eu des petits éléments comme ça qui étaient quand même réjouissants dans l'idée de se dire « bah oui, c'est peut-être bien avec les consciences de ces fœtus que les médiums sont réellement connectés, quoi. »
Il n'y a effectivement pas la preuve qu'une conscience existe. En revanche, la recherche scientifique a déjà mesuré pas mal de choses sur la sensibilité des fœtus, notamment aux sons, aux odeurs. Ça veut dire que le fœtus qui est en gestation a déjà des sens éveillés, réveillés. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes appuyé pour vous dire bah, s'il y a des sens, il y a aussi une conscience qui perçoit ces sens ?
Non, parce que je pense que cette conscience-là, la conscience des odeurs, des sons, des bruits, c'est dans le cerveau. Ce sont des habiletés qui se développent en même temps que les connexions neuronales des synapses. Donc je ne me suis pas appuyée là-dessus. Ce sur quoi je me suis appuyée, c'est plus sur... Ça paraît évident à tout le monde que la femme enceinte, elle est en communication avec son bébé quelque part. Et puis toutes les femmes enceintes que j'ai pu rencontrer parlent à leur enfant et le papa aussi. Donc ils parlent à quoi quand on sait que ce cerveau, il est complètement immature pendant quand même un certain temps. Et c'était les recherches aussi de Françoise Dolto qui avait surpris tout le monde en disant « mais parlez aux bébés les premiers mois de vie pour leur expliquer plein de choses qui ont pu être traumatisantes parce qu'il comprend. Mais il comprend à partir de quoi ? Parce que son cerveau, il n'est pas encore franchement mature pour avoir la réflexion, pour le faire et pour avoir cette distance-là. » Donc, je me suis plus appuyée sur à quoi parlent les papas et les mamans quand une grossesse est en cours. En sachant qu'au niveau physiologique, ce que je vous ai décrit, rien n'est mature pour les standards de communication habituels. Et là, on parle d'une autre conscience, celle qui n'est pas incarnée, qui est cette conscience qui persiste après la mort, qui est cette conscience qui est ce que les gens vivent en expérience de mort imminente quand ils voient leur corps sur la table et puis qu'eux, ils arrivent tout à fait à penser, réfléchir et parler, alors qu'ils ne sont plus dans... Le cerveau ne marche pas, donc ça, on le sait documenter. C'est cette conscience-là, en fait. Donc, le mot conscience me semble plus adapté. C'est pour ça qu'on a utilisé, mais ça pourrait être âme, ça pourrait être la partie métaphysique de l'être. Les médiums, spontanément, utilisaient souvent le mot âme dans leurs rapports. C'est pour ça que dans les citations, plein de fois, il y a le mot âme, parce qu'ils disent « cette âme me dit que l'âme dit ça, plus que la conscience me dit ça ». Moi, je suis arrivée sur la Terre en étant attendue de personne. Parce que ma mère était très jeune, elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte. Et puis, elle a caché sa grossesse à tout le monde. Donc, elle était enfermée dans un secret qui était très difficile pour elle. Personne ne savait que j'arrivais, ni même mon père biologique, personne. Sauf elle. Et quand je suis arrivée, ça a été une très grosse surprise pour ses parents, pour l'entourage. Mais j'ai eu la chance d'être vraiment tellement bien acceptée par cette famille, en fait. Et puis avec ma mère, petit à petit, le lien s'est tissé. Petit à petit, maintenant il est très joli. Ma grand-mère était une maman de cœur aussi, puisqu'elle prenait beaucoup de soin de moi. J'étais très proche d'elle, donc j'avais les deux extrêmes de la vie, puisque ma grand-mère avait 45 ans à peu près quand je suis née. Et puis ma mère à peine 18 ans. Donc je dirais que j'ai pris des deux, un tâtonnement de la jeune maman qui ne sait pas trop comment s'y prendre avec un enfant, puis qui cherche ses marques comme elle le peut, et puis l'expérience de la femme qui a eu 9 enfants et pour qui c'est facile, ça roule tout seul et qui est disponible pour vivre autre chose, qui était disponible pour vivre autre chose avec moi justement parce qu'elle n'avait pas ce stress de la découverte de la maternité.
Donc c'était un environnement plutôt féminin, vous diriez ? De votre petite enfance ?
Non, parfaitement équilibré. Parce qu'il y avait mon grand-père qui était très présent et j'avais autant d'oncles que de tata, si on peut dire. Donc non, j'avais une présence, de la présence masculine. C'était une ferme agricole avec l'élevage de bétail et puis il y avait aussi de la production de maïs, de culture, des poules, des lapins.
Et puis votre papa, vous l'aviez côtoyé ?
Alors mon papa, oui, je l'ai côtoyé, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Et puis on s'est côtoyé pendant une dizaine d'années. Et puis ça s'est arrêté un peu aussi brutalement que ça avait démarré. Et récemment, on a repris contact.
Vous avez choisi un métier qui est en lien avec la naissance. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à un moment donné de votre jeunesse ou c'est venu plus tard? Comment vous avez choisi cette voie-là?
Forcément, avec le recul, je me dis qu'il y a un lien avec les circonstances de ma naissance, dans ce besoin de prendre soin de l'enfant qui arrive et de la femme qui est enceinte, forcément. Mais je ne peux pas dire que cette conscience-là, je l'avais au moment de choisir ce métier. J'étais en totale inconscience. Et c'est venu par inspiration de ma mère, justement, qui m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas sage-femme ?» Parce qu'elle gardait un très bon souvenir des sages-femmes qu'il avait accouchées de son deuxième et son troisième enfant. C'est parti comme ça. Mais le métier, je l'ai découvert en rentrant à l'école de sage-femme. Je dirais pas que ça a été le coup de cœur tout de suite, parce que quand on a juste 18 ans, j'étais la plus jeune de la promotion, et puis qu'on assiste à un premier accouchement, moi j'étais carrément terrorisée, effrayée de voir la tête d'un bébé sortir de la vulve d'une femme depuis mes 18 ans, quoi. Mais en même temps, j'arrivais pas à renoncer à ce métier pour autant, donc je suis restée, j'ai fait ces 4 années, et puis tout s'est très bien passé, mais c'était pas une vocation, j'ai été poussée là-dedans en fait. Et quand j'ai commencé ma formation de sage-femme, je n'aurais pas du tout imaginé qu'un jour je ferais de l'enseignement, puis encore moins de la recherche scientifique. Donc c'est les hasards de la vie, je dirais, qui m'ont tout à coup projetée dans la recherche scientifique en premier, en fait, avant l'enseignement. Quand j'ai divorcé avec le père de mes enfants, il fallait que je sois autonome pour garder mes 3 petits. Et les horaires de sage-femme sur le terrain, les nuits, les week-ends, sans famille à proximité, c'était pas possible. Donc j'ai répondu à l'annonce d'un médecin qui avait trouvé un fonds de recherche pour faire une recherche sur la prématurité. Par intérêt, curiosité par la recherche que j'avais toujours eue, parce que j'adorais assister aux colloques de service où j'entendais les médecins parler des derniers résultats de la recherche pour décider de faire telle prise en charge pour telle femme, je trouvais passionnant. Alors d'une part pour ça, et puis aussi pour tout à coup des horaires qui devenaient du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Et puis j'ai eu la chance d'être encouragée par ce médecin pour me former. C'est lui qui m'a dit, mais les sages-femmes, elles peuvent peut-être faire autre chose que d'être les petites mains des recherches des médecins. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais comment faire? Ah bah oui, il faut faire des formations, ça s'apprend, la recherche. Donc j'ai commencé à faire un diplôme universitaire en recherche qualitative. Prendre un peu des cours d'anglais, parce qu'en tant que bonne française, les langues, c'est pas notre fort. Et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la recherche, bien avant d'enseigner en fait. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par un médecin qui est devenu mon directeur de thèse par la suite, le professeur Boulevin, qui m'a vraiment transmis plein de choses et avec qui j'ai commencé sur le terrain en compagnonnage en fait. Et puis j'ai eu le goût en fait, ça m'a donné le goût, les premières publications sont arrivées et c'est en fait l'école de sage-femme qui est venue vers moi, la haute école de santé, qui est venue vers moi parce qu'à l'époque, avec le changement de statut des HES, je crois que c'était en 2006, hein, et le niveau bachelor, il fallait enseigner la recherche scientifique dans les filières. Et l'idéal était de faire cet enseignement avec une sage-femme qui soit formée à la recherche. Au début, j'avais un petit pourcentage, 30% à la haute école de santé, le reste à la maternité des HUG. Et puis petit à petit, ces pourcentages-là se sont inversés. Et maintenant, je fais majoritairement de l'enseignement et puis de la recherche.
Que vous apportez les deux champs d'activité?
Pour moi, c'est complémentaire. Parce que la pratique, j'ai été sage-femme de terrain, comme on dit, sans que ce soit connoté moins intéressant que la recherche, pendant quasiment 20 ans. Et ça me fascinait, en fait, la naissance. J'avais 10 000 questions qui arrivaient en faisant ces accouchements, en regardant les regards de ces nouveau-nés, en observant leurs différences de comportement tout de suite, dans la première heure de naissance. Je me demandais, en fait, d'où ils viennent, avec quoi ils viennent. Ils ne sont pas si vierges qu'on veut nous faire croire dans certains enseignements en arrivant comme ça. Et je l'ai observé moi-même avec mes 3 enfants, en fait, ça a commencé par là, parce que le premier, bon, voilà, c'était l'étalonnage de référence, je dirais. Et puis quand j'ai eu ma fille, 2 ans après, tout de suite, j'ai vu qu'elle réagissait complètement différemment à l'allaitement, à la façon de téter, à sa réaction dans le bain, comment elle dormait, comment elle dormait pas, sa réactivité pour certaines choses. Puis mon 3e enfant, quand il est arrivé, c'était encore différent. Donc je l'ai pu l'observer à la fois dans ma pratique, à la fois dans mon expérience.
Est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous êtes senti lassé du processus ou chaque naissance était quelque chose de waouh?
Alors carrément waouh à chaque naissance, mais jamais lassé. C'est le plus magnifique métier du monde. C'est impossible d'avoir une lassitude dans ce métier-là, impossible. Parce que chaque histoire, chaque couple qui arrive amène qui il est, son énergie, ses attentes pour l'accouchement, sa projection pour l'enfant à venir, ses doutes, ses peurs, ses joies. Non, c'est tellement différent à chaque fois que c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui est impossible dans notre métier, d'être blasé. Mais j'ai un lien de curiosité avec le monde invisible. Donc j'avais lu avec intérêt les témoignages d'expériences de mort imminente, le fait qu'il y en avait tellement qui avaient été écrits qu'on pouvait presque le modéliser, ce tunnel, la lumière, les messages des proches, l'injonction de retourner sur Terre, parce que les autres, ils ne nous racontent pas. Ça me fascinait. J'avais lu aussi avec intérêt le livre de Anita Morjani, qui a une guérison spirituelle. Alors si elle avait été à Lourdes, elle aurait sans doute été reconnue comme une miraculée de la Vierge Marie, mais ce n'était pas du tout son expérience. Et pourtant, elle a vécu une guérison qui semble miraculeuse, spirituelle. Elle a écrit un livre qui est absolument fascinant. Et ce qui m'intéressait ces dernières années, il y a eu une recherche faite en Suisse par Evelyne Elsasser sur les communications spontanées avec les défunts. C'était très intéressant parce que ça s'adressait à des personnes qui ne cherchaient rien, qui ne croyaient pas forcément en quelque chose, en une vie après la mort. Donc j'ai lu aussi ce livre-là et puis je me suis dit waouh, tout ça c'est quand même fort intéressant quoi. Donc mon rapport à l'invisible, c'est celui de la curiosité, de l'intérêt, de l'exploration.
Donc c'est un rapport intellectuel à travers les récits d'expériences qu'ont fait les personnes, c'est ça ?
Pas que ça. J'ai aussi eu personnellement quelques expériences de ressenti de présence avec des défunts proches qui m'ont troublée, qui m'ont presque effrayée à l'époque, parce que je ne les cherchais pas du tout. Et puis sinon je fais beaucoup de méditation depuis très longtemps, et quand on fait de la méditation, il y a un moment donné où on touche cet invisible, il y a un moment donné où ça arrive, pas forcément au début, mais avec le temps, avec la pratique, à un moment donné on sent, on a l'impression en tous les cas de ressentir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, qui est autour de nous, qui est là et qui est en nous, et ça j'ai la chance de le percevoir actuellement dans ma vie depuis plusieurs années, donc c'est aussi mon expérience de l'invisible.
Quelle forme ça prend, vous diriez, cette conscience, cette connexion, quand vous êtes, c'est en moment de pratique de méditation, c'est quelque chose qui du coup infuse dans votre vie quotidienne, puis vous avez changé de posture, ou comment vous décririez ça ?
C'est tellement difficile de décrire avec des mots, quoi. Comment le décrire avec des mots ?
Ou avec des sensations, je sais pas.
C'est un ressenti intérieur, c'est un ressenti intime, c'est là quoi. Je peux que dire que c'est là, je peux pas donner une forme, une couleur, c'est comme une image qui me vient, c'est une odeur. Une odeur, c'est invisible, on la voit pas l'odeur et pourtant on la sent. Elle est là, l'odeur. Dans la méditation, dans cette connexion avec l'invisible, je peux ressentir les choses comme ça, c'est là. Je ne peux pas les décrire plus que ça, quoi. À part de dire que c'est agréable, que ça donne un sentiment de plénitude, que c'est rassurant, que ça donne une confiance, que c'est lumineux quelque part. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que ça dans ma description, hein, je suis désolée.
Vous vous inscrivez dans quelle tradition de méditation ?
Je les ai essayés un peu, je ne veux pas dire tous, mais j'en ai essayé plusieurs. Mais j'aime bien me sentir libre tout le temps, autonome, indépendante. Toutes ces affiliations, pour moi, c'est des carcans qui m'enfermeraient. C'est assez vite insupportable pour moi. J'ai besoin de me sentir libre. Pour la méditation, c'est l'expérience qui compte avant tout pour moi. On peut toujours me donner des théories sur le sujet. J'ai besoin de l'expérience. C'est ça qui me donne la conviction interne de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Quand j'ai fait une recherche avec l'acupuncture pour faire tourner les bébés qui se présentent par le siège, ben j'ai fait un DU, un diplôme universitaire d'acupuncture durant cette recherche parce que j'avais besoin de comprendre l'expérience. Bien sûr, je l'ai faite en allant faire une séance d'acupuncture, mais j'aime pas du tout quand on me pique. Après, j'ai fait une recherche sur l'hypnose et durant la recherche pour l'hypnose, j'ai dû subir une petite intervention chirurgicale qui se faisait sur une anesthésie générale courte de 10 minutes. j'ai décidé de la faire sous hypnose pour faire l'expérience. J'ai besoin des deux. Je suis intéressée de lire ce que les gens écrivent sur un sujet, mais si je peux l'expérimenter, je vais toujours aller l'expérimenter.
C'est un côté très terre-à-terre et incarné aussi, comme ça.
Oui, je suis quelqu'un qui est très enraciné sur cette planète Terre. Pour moi, il y avait mes explorations scientifiques, il y avait mon travail d'enseignement, et puis il y avait mes explorations personnelles, et puis il y avait aussi ma vie de femme, et puis il y avait aussi ma vie de maman. Enfin, j'avais bien cloisonné tous les aspects de ma vie. Et un jour, j'ai vu ça, j'ai vu que j'avais mis des cloisons partout, puis que je me baladais de l'un à l'autre, puis que j'avais des cercles d'amis et de connaissances dans chacun, mais qui avait, c'était assez hermétique en fait, toutes ces pièces, il n'y avait que moi qui m'y baladais. Et puis tout ça a fondu maintenant, et je ne peux pas dire pourquoi en fait, hein. C'était en 2019, peut-être parce que c'était l'année de mes 50 ans, il se passe peut-être des choses quand on a 50 ans, j'en sais rien, mais tout à coup, tous ces murs sont tombés avec une envie d'unifier tout ça, parce que tout ça c'est moi. C'est des rôles dans ma vie, mais tous ces rôles m'appartiennent et je ne voyais plus le sens de faire ces séparations. Donc ça a fondu comme neige au soleil. Alors il y a un petit moment de « Ouh, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Comment j'intègre tout ça ?»
Est-ce que ça a surpris des gens de votre entourage, de vos entourages ? Parce que vous disiez que vous aviez plein de cercles différents, étanches. C'était quoi la réaction du monde à cette unification ?
J'ai perdu quelques amis, on va pas se mentir.
Pourquoi ?
Parce que ce sujet de la spiritualité, du monde invisible, de l'exploration de tout ça, insécurise beaucoup de personnes et je ne comprends toujours pas pourquoi à ce jour en fait, pourquoi ça fait si peur. Je ne sais pas, mais c'est une réalité. Donc oui, ça a fait fuir des personnes, mais ça en a attiré beaucoup d'autres. Alors dans ma vie professionnelle, c'est vrai que là, ça a été le plus difficile. Voilà, ça a été la cloison la plus difficile à faire tomber.
Ça veut dire qu'en tant qu'enseignante à la Haute École de Santé, vous, Marie-Julia Guittier, vous amenez aussi cette dimension-là dans votre transmission ? C'est important de l'amener là aussi ?
Pour l'instant, pas. C'est pas encore le moment pour ça. Un jour, peut-être, ça me ferait très plaisir. Pour l'instant, pas. Parce que cette recherche, elle est beaucoup trop récente. Hein. Comme vous l'avez dit, elle a été publiée il y a juste quelques mois. C'est la première recherche qui a été faite dans le monde sur ce sujet-là. Donc, je dirais que mes collègues, mon employeur même, a été surpris de ce sujet d'investigation et pas forcément enthousiasmé parce que c'est sortir hors des clous académiques.
Vous diriez que c'est cette capacité à aller à contre-courant qui est un de vos moteurs ?
Ça ne me fait pas peur. J'avoue que j'ai la chance d'avoir cette force-là en moi. Je n'ai pas peur d'aller à contre-courant.
Vous la tirez d'où, cette force ?
D'où vient cette force ? Je pense qu'elle vient... Ah, non, je pense, j'en sais rien du tout, en fait. J'ai commencé à réfléchir. Mais...
Vous l'avez toujours eue, en vous ? Même petite fille, ado ?
Je dirais que je l'ai toujours eu parce que j'ai commencé par naître à contresens. Ma mère ne voulait pas que j'arrive, ne voulait pas de moi et j'ai dû me frayer déjà un chemin pour arriver. C'était pas le tapis rouge pour moi, c'était pas facile et pourtant une force m'a poussée à venir. Et j'ai pu explorer ça, non, ça c'est très personnel, mais j'ai pu explorer cette décision de venir et pourquoi dans ces conditions-là et tout ça par différentes techniques, approches. Je dirais que je l'ai depuis tout le temps, cette force en moi.
Marie-Julia Guittier, on évoque cette recherche qui fait partir dans des sphères, le spirituel, l'immatériel, l'invisible. Mais sur un plan très concret et tangible, elle pose aussi des questions, notamment par rapport à l'interruption de grossesse. Et j'imagine que quelqu'un qui lit cette étude et qui a vécu une interruption de grossesse ou qui envisage une interruption de grossesse, ça pose aussi cette question. Il y a une question éthique un peu derrière cet aspect-là, non ? Quelle place vous lui avez donnée à cet aspect-là de votre recherche ?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est venu très vite avec l'idée de ce protocole. Et si jamais on arrivait à montrer qu'il y a une conscience durant la grossesse avec laquelle on puisse communiquer, est-ce que des personnes mal intentionnées pourraient utiliser ces résultats pour empêcher les femmes de faire des avortements ? Bien sûr qu'on y a pensé. Et on s'est dit, est-ce que c'est à cause de ça qu'on ne doit pas faire cette recherche? Est-ce que c'est par la peur que des personnes utilisent nos résultats qu'on ne doit pas aller approfondir qu'est-ce que c'est qu'un être humain? On l'affirme haut et fort, pour nous, on ne souhaite pas que les résultats soient utilisés dans ce sens-là. Et puis pour nous, il n'y a pas les éléments non plus pour le faire avec les résultats de notre recherche. On n'a rien qui a été dans le sens de dire que si on fait un avortement, la conscience est tuée, est morte. Nous, on n'a pas fait d'interview au premier trimestre de la grossesse, exprès aussi pour ça. Donc, on a interviewé les consciences quand elles étaient dans le deuxième ou troisième trimestre de la grossesse. Donc déjà, on n'a pas d'éléments qui correspondent à ce premier trimestre.
Donc l'interruption de grossesse, c'est légalement en Suisse, en tout cas, c'est à partir de quel, jusqu'à quel terme?
12 semaines, je crois. Et on a tout fait pour protéger les participants aussi. J'ai fait partie pendant 8 ans de la commission d'éthique du canton de Genève, donc je suis hyper sensible à la protection des participants en recherche. Pour moi, c'était pas négociable que les parents aient accès au rapport des médiums. C'était hors de question. Parce que je ne voulais pas... C'est une question, cette recherche, et je ne savais pas ce qu'on allait recevoir. Et peut-être que ce qu'on allait recevoir, c'était du grand n'importe quoi. Et je sais à quel point on peut influencer des personnes. C'est un effet qui a été décrit, hein. Les personnes qui vont consulter des voyants, des médiums, on leur dit quelque chose. Après, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit, et ça peut créer des comportements, des pensées. Donc, au niveau éthique, le point très important, c'était pour moi que les parents n'aient pas accès au rapport des médiums pour rester dans l'innocuité de ce qui doit être à vivre entre l'enfant qui arrive, sa mémoire qui apparemment disparaît quand on s'incarne, et puis les parents qui accueillent cet enfant et tout à découvrir. Après, j'ai envie de vous lire une citation que j'ai trouvée, qu'on a eue d'une conscience qui, quand elle nous parlait de ce processus sur les questions que vous me posiez tout à l'heure. Je cite, « C'est le même processus pour chacun de nous, selon les liens d'âme, les challenges que chacun souhaite expérimenter, tout est prévu. Et si le plan change, c'est une autre famille d'âmes qui nous accueille avec des critères similaires, car le libre choix permet aux humains de changer certaines petites routes. »
Donc là, ce serait une allusion à un avortement, par exemple.
Oui.
Ça voudrait dire, si j'interprète, que cette conscience, elle n'est pas accrochée au corps du fœtus, mais que c'est quelque chose qui est libre de venir dans un autre corps éventuellement.
Peut-être, mais là, je n'en sais rien. On ne peut pas dire avec, sur les bases de cette recherche, que c'est comme ci ou comme ça.
Marie-Julia Guittier, au terme de cette recherche, est-ce que ça a précisé des choses sur d'où viendrait cette conscience?
Ce que je vais dire n'engage que moi. Ma conviction à ce jour et aussi après cette recherche, c'est qu'il semble y avoir une continuité dans cette conscience. Qu'elle est là avant, qu'elle est là pendant qu'on est incarné, vivant, et qu'elle est là encore après. Donc pour moi, il y a une continuité de conscience.
C'est ici que se termine ce portrait de la chercheuse Marie-Julia Guittier. On vous souhaite un bon retour sur Terre après cet échange singulier, plein de merveilleux et d'une grande sincérité.
Les auteurs de l'étude dont il a été question tiennent à préciser qu'ils découragent absolument les futurs parents d'aller voir des médiums pour tenter d'entrer en contact avec leur fœtus. Et d'ailleurs, les parents qui ont participé à ce protocole n'ont eu accès à aucune information.
Si vous souhaitez contribuer à la future recherche de Marie-Julia Guittier, vous pouvez envoyer vos témoignages de sensations de communication spontanées pendant la grossesse, voire avant la conception, en écrivant à communication prénatale au singulier sans accent @gmail.com. Et si c'est à nous que vous voulez écrire, notre adresse, c'est invisible@rts.ch.
La médecine et l'invisible, un podcast de Pauline Vrolix et Samuel Soquet, réalisé par David Golan.
Si vous voulez découvrir d'autres profils passionnants, rendez-vous sur notre page internet rts.ch/invisible, sur Play RTS, Apple Podcast et la plupart des plateformes de podcast. Et si vous nous aimez, mettez-nous 5 étoiles.
La médecine et l'invisible. Un podcast de la RTS.
Dans le prochain épisode, ce sera le 14e de cette saison 3, on vous propose de rencontrer la généraliste valaisanne Nadine Bittel-Truffert, elle aussi connectée à l'invisible. À bientôt!